Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de Café Trailer. Alors aujourd'hui, c'est un échange avec Audrey Tanguy. Alors Audrey Tanguy, c'est une traileuse élite que j'ai eu l'occasion de rencontrer lors du DU Trail Running de Grenoble et donc j'ai pu lui faire mon invitation à participer à ce Café Trailer en direct. Donc super chouette, merci beaucoup Audrey d'avoir accepté encore une fois cette invitation, c'était vraiment un super moment. Merci également aux Patriotes. Alors voilà, vous savez, depuis les derniers épisodes, je vous en parle, il y a un moyen maintenant de soutenir le Café Trailer, c'est pour perdurer, que cette activité-là puisse continuer et puis voir se développer pour créer d'autres projets. Donc merci beaucoup à Benjamin, Alexandre et Loïc qui ont contribué à leur échelle, chacun, pour que ce podcast puisse continuer de vivre. Merci beaucoup à tous les trois d'être les premiers. Donc vous avez tous les trois la médaille d'or, d'argent et de bronze des Patriotes. Félicitations à vous. Bien joué les gars. Voilà. Alors j'espère que vous serez nombreux à pouvoir suivre ce Patriote pour que l'aventure Café Trailer puisse continuer. En attendant, moi je vous souhaite une très bonne écoute avec Audrey. On parle d'entraînement, on parle de sa vision du trail, on parle de ses objectifs hein, sur l'UTMB et d'autres. On parle aussi de son 100 km route qu'elle a eu l'occasion de faire cette année. Voilà, on parle de tout un tas de sujets, d'entraînement, de conseils techniques aussi pour gérer les descentes et l'alimentation. Voilà, donc on parle de beaucoup de choses avec Audrey, c'était vraiment un super échange, j'ai vraiment apprécié ce moment, tout en bonne humeur, on a beaucoup rigolé avec Audrey, c'est quelqu'un qui est de très bonne humeur tout le temps, donc génial, c'était un super moment. Allez, je vous laisse là-dessus, bonne écoute et bonne sortie longue à tous, ou bonne route, ou bon ménage, je ne sais pas dans quelles conditions vous écoutez ce podcast, mais en tout cas, je vous souhaite de passer un bon moment.
Bonsoir à tous, bonsoir Audrey, merci d'avoir accepté mon invitation. Audrey, comment vas-tu ? T'as ton micro qui est coupé, Audrey. Faut que tu réactives ton micro. Voilà, normalement, c'est bon.
J'avais rien touché, il s'est bloqué tout seul.
Eh ben, écoute, voilà, c'est les aléas du direct. Comment vas-tu, Audrey?
Tout va bien. Merci de m'avoir invité. C'est sympa.
Eh ben, avec grand plaisir. Alors, on est ensemble pendant environ une heure avec ton chat aussi, je crois, qu'on voit juste derrière. Vous allez pouvoir poser toutes vos questions à Audrey ce soir. Si vous en avez, on y répondra avec grand plaisir. Mais en attendant, Audrey, il y a une question traditionnelle sur l'émission Café Trailer, c'est de savoir quel est ton premier trail.
Alors, le premier trail que j'ai fait en compète, c'était un trail juste à côté de chez moi qui s'appelle la Sépienne, qui fait 24 km. Et je ne me souviens plus trop du dénivelé. Il y a un peu de dénivelé quand même. Et voilà, le premier que j'ai fait.
Ok, ça marche. Et comment ça s'est passé ce premier trail? T'as tout de suite commencé à performer ou ça a été une vraie galère et une vraie souffrance?
Non, ça s'est bien passé. J'ai bien aimé. J'étais étonnée de que ce soit finalement pas facile, mais j'étais à l'aise en fait dès le premier. Ouais, en prenant. Après, ça faisait longtemps que je courais déjà, hein, mais j'avais gagné en fait. Et ma maman est arrivée troisième en fait. C'était chouette parce que du coup on avait partagé le podium.
Ah génial, c'est excellent ça. Donc ça veut dire que tu es issue d'une famille de sportifs, j'imagine. C'était vraiment, t'as baigné là-dedans depuis toute petite.
Ouais, je suis d'une famille de sportifs. Enfin, en fait, c'est ma maman qui m'a mis le pied un peu à l'étrier, si on peut dire comme ça, sur la course en tout cas. Elle court tous les jours, elle. Et puis ma petite sœur aussi maintenant court tous les jours. Mon papa a beaucoup couru, mais après il a eu des problèmes de genoux, donc il a fait plus du vélo. Et puis quand mes parents sont séparés, ma maman donc a rencontré mon beau-père qui lui faisait aussi du trail et faisait même des compétitions. Et c'est grâce à lui en fait que j'ai fait la première compétition en trail, parce que je faisais du trail mais pas en compète avant.
D'accord. Et avant, du coup, c'était en quelle année ça, ce premier trail?
Je crois que j'avais 24 ans, 88.
À peu près.
2010,
d'accord. Et du coup, ça faisait. Par contre, t'avais fait de l'athlétisme avant. Tu disais que tu faisais déjà de la course à pied. Mais c'était quoi ton passif de sportif pour gagner ton premier trail?
Alors, j'ai fait 10 ans de patinage artistique, de mes 3 ans à mes 13 ans à peu près. J'ai fait plein de sports. Je faisais partie du NSS, notamment au collège. Donc, je faisais du sport tous les mercredis. Toutes les activités, je les faisais. J'ai fait du tennis de table. J'ai fait de la gymnastique, d'athlétisme, mais que avec le NSS, pas en club d'athlétisme. Qu'est-ce que j'ai fait? D'équitation, du judo, des tonnes de trucs. Et puis, donc, surtout 10 ans de patinage. Ça, c'était vraiment mon premier sport. Et puis après, j'ai fait un petit peu de tennis aussi pendant... 7 ans, je crois, quelque chose comme ça, 5, 6, 7, quelque chose comme ça. Je donnais des cours aussi aux enfants l'après-midi. Pardon. Il y a des chats partout chez moi, c'est l'horreur.
Pas être allergique.
Ouais. Donc voilà, ouais, surtout du patinage et du tennis, plus plein d'autres à côté. Et puis la course à pied, c'était un peu... Le fil conducteur, en fait, c'était aussi ce qui nous rassemblait chez moi, parce que ma maman a toujours couru. Donc, en gros, si je voulais être avec elle, passer du temps avec elle, aller courir, c'était le bon moyen, en fait. Donc, c'est comme ça que je m'y suis mise.
Génial. Donc, en fait, si je comprends bien, tu faisais un petit peu de tous les sports. T'as touché un petit peu à tout. Il y avait quand même le patinage artistique et toujours, toujours de la course à pied, comme ça, en petit footing en famille, juste pour le plaisir. Voilà. Et là, maintenant, du coup, le patinage artistique, t'as complètement arrêté. Tu fais plus que de la course à pied.
J'ai pas du tout entendu ce que tu viens de dire. Je pense que le micro a bugué.
Le patinage artistique, ouais. T'as complètement arrêté. Maintenant, t'en fais plus du tout.
Non, non, j'ai complètement arrêté. J'étais jeune ado, en fait. Hein, après.
D'accord.
Parce que ça me prenait beaucoup de temps. Et puis, pour progresser en patinage, en fait, il faut pas avoir peur. Et puis, avec l'âge, on a peur. Et puis, c'est moins facile. En fait, on est meilleur en patinage quand on est plus petit et plus léger. En grandissant, le centre de gravité va s'élever. Et du coup, c'est plus compliqué pour les sauts. Et donc, au bout d'un moment, on ne progresse plus. Et dès que j'ai arrêté de progresser, j'en avais marre, donc j'ai arrêté.
Et tu dirais que tous ces sports, parce que j'ai un petit peu le même profil, bon, moi, j'ai pas le même niveau que toi, très, très loin de là, mais j'ai un petit peu le même profil que toi, du moins dans mon adolescence, d'avoir fait comme ça plein, plein de sports différents. Et est-ce que tu crois que ça a un bienfait, ça, pour l'athlétisation, pour je sais pas, pour d'autres aspects, pour être performant après en trail?
Ouais, je pense que oui. Alors, sur plusieurs plans, en fait, à la fois sur le fait de s'entraîner, effectivement, d'avoir l'habitude d'avoir une dépense physique régulière, le fait de faire du sport en dehors, donc pas forcément la variété à ce moment-là, mais juste le fait de faire du sport depuis longtemps, ça, je pense que...
Ah, on a perdu Audrey. Alors, on va essayer de meubler pendant ce temps-là. ça, c'est les aléas du direct. Hein. Donc, j'espère qu'Audrey va revenir très, très vite. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions à poser à Audrey ce soir. N'hésitez surtout pas à les poser. Ah, ça y est, Audrey revient. Tac, là. Salut Audrey, re.
Ouais, ça a bugué.
Alors, du coup, tu disais que tu penses que ça a beaucoup de bienfaits.
Ouais, je pense que c'est très important. Et puis aussi dans le fait d'être habitué à se surpasser, en fait, quand on le fait dans différents sports. On a l'habitude, en fait, c'est plus sur question d'habitude. Et puis la variété des sports, en fait, c'est très important parce qu'il y a, dans chaque sport, il y a une partie commune qui s'appelle le programme moteur généralisé, qui peut être travaillé par différentes activités et qui va être bénéfique contre l'ennui, par exemple, parce que de faire tout le temps le même sport, si on commence à 3 ans, au bout d'un moment, on se lasse. Donc, le fait de faire plein d'autres sports, ça permet de travailler cette partie générale et commune à tous les sports, tout en évitant l'ennui. Et donc, quand on a envie, en général, on peut en faire plus ou se donner plus dans différents sports. Donc, voilà. Et puis, en termes de motricité, de toute façon, c'est toujours intéressant de travailler un large panel d'activités en termes de motricité fine, notamment. Proprioception, tout ça. Donc oui, je pense que c'est très bien de varier les activités quand on est jeune.
Mais c'est très intéressant, c'est ce que tu dis, parce qu'on en voit souvent des ados ou des pré-adultes, je ne sais pas si ça se dit ça, qui arrivent à 16-17 ans, qui, qui ont fait toujours le même sport pendant des années et puis qui en ont vraiment marre et qui raccrochent complètement et qui veulent plus entendre parler de ce sport. Moi, j'ai un ami comme ça dans mon entourage qui a fait de l'athlé, il était à fond dans le cross et puis son père était le coach aussi, ça aide. Et puis, qui à 16 ans n'a plus jamais voulu entendre parler de course à pied. Coup, le fait de faire plein de sports, tu dis que ça évite ça, d'arriver à ce stade-là de lassitude, en fait.
Bah ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Puis le fait d'en faire plein, ça peut aussi permettre de trouver des vocations. Enfin, c'est compliqué, bah, comme dans l'orientation scolaire, choses comme ça, hein, le fait d'essayer plein de choses, on a plus de chances de trouver quelque chose qui nous plaît vraiment aussi. Donc, bon, c'est bénéfique pour plein de choses, je pense.
Alors en plus, alors je le précise pour ceux qui ne le savent pas, tu es professeur de PS dans la vie de tous les jours, on va dire. Est-ce que justement, en parlant de ça, de ton activité pro, tu trouves ça assez simple de cumuler, d'arriver à t'entraîner autant que tu t'entraînes et d'avoir une activité professionnelle à côté, parce que tu ne vis pas du trail actuellement? Du moins, pas que je sache. Est-ce que toi, tu arrives bien à conjuguer les deux?
Moi, j'y arrive. En fait, je dirais pas que c'est simple, en fait. Non, je pense qu'il y a des moments où c'est même très compliqué. Mais moi, ça m'apporte un équilibre, en fait, dans ma vie de tous les jours. J'aime bien avoir ces deux pôles d'activité, parce que ça se ressemble sans se ressembler. Enfin, c'est lié au sport, mais pour moi, ça n'a rien à voir. Donc, j'aime bien avoir cet équilibre-là. Par contre, non, il y a des fois où c'est très compliqué, notamment en ce moment, d'ailleurs, parce que il y a l'entraînement, effectivement, il y a le travail, il y a le repos, qui est quand même vraiment important. Et bon, ça, j'y arrive. Mais après, quand en plus, il y a les médias, il y a tout ce qui est aux alentours, la publicité, les rendez-vous, les shootings photos, ça peut être très compliqué en termes de mise en place d'une semaine et du coup c'est souvent le repos qui passe à la trappe et donc des fois ça peut être un peu stressant, mais bon, ça fait partie du jeu et voilà, moi j'ai choisi de le faire comme ça et de l'assumer comme ça, mais ouais non, c'est des fois c'est chaud.
Alors justement, comme tu parles de toute cette partie un petit peu invisible pour les gens qui ne le vivent pas. Qu'est-ce que ça implique concrètement de faire partie comme ça de ton, pour ton cas, c'est la team Oka. Qu'est-ce que ça implique de faire partie comme ça d'une team? Quel engagement est-ce que tu as envers Oka? Et puis, est-ce que toute cette partie-là, finalement, comme tu le dis, ça te prend quoi comme temps, en gros, sur une année ou sur, c'est quoi, en fait, cet engagement?
Bon, sur une année, ça va être compliqué à quantifier, mais il n'y a pas que Oka, parce qu'en fait, moi, je fais partie de la team Oka, mais j'en ai d'autres de sponsors. J'ai pas que Oka, j'ai Compressport, j'ai Coros, j'ai Effinov qui est un partenaire nutrition, j'ai Stutz qui va me donner une frontale, enfin bon, plein de partenaires. Bon, il y en a qui sont plus importants que d'autres. Effectivement, le principal, c'est quand même Oka. J'ai aussi beaucoup de chance parce que ce sponsor-là ne demande pas grand-chose aux athlètes. Ils sont pas hyper exigeants. Mais par contre, voilà, quand il y a une compétition, je sais qu'il va y avoir des interviews qu'il va falloir faire. C'est normal. Eux, c'est aussi ce qui leur apporte de la visibilité. Voilà, donc... par exemple, la semaine avant l'UTMB, on est tenu d'y être dès le mardi, sachant que la compétition, elle part le vendredi soir, parce qu'il y a plein de rendez-vous presse. Et ça, par exemple, pour moi, c'est pas évident, parce que je suis déjà stressée et qu'il faut mettre de côté ce stress et puis répondre sans cesse aux questions des journalistes sur la course, alors qu'on sait pas comment ça va se passer et que nous, on est en plein questionnement.
Ah, on a encore perdu Audrey. Mince. Alors, c'est vrai que ça doit pas être simple, ça, de gérer. Alors, Audrey revient. Audrey, hop, tac, tac. Là, c'est bon.
Ouais.
Alors, du coup, tu disais que ça doit pas être, c'est pas simple d'arriver comme ça le mardi et puis devoir gérer des interviews toute la semaine pour raconter une course que tu n'as pas vécue.
Voilà, c'est ça. Puis après, il y a des gens qui vont nous dire, ah ben. Du coup, il y a des chances que vous fassiez une belle course, que vous fassiez une belle place. Alors, bah, c'est très compliqué. Je rêve de ça. Je me suis entraînée depuis 2 ans pour ça, mais je peux pas dire je vais gagner l'UTMB. C'est impossible de dire ça et impossible de dire je vais faire un podium à l'UTMB parce que c'est un ultra, parce que je suis pas toute seule, parce qu'il y a le temps, parce qu'il y a plein de choses qui peuvent intervenir et que voilà, les aléas sont très nombreux et qu'il faut qu'il y ait beaucoup de choses qui se combinent pour que tout se passe bien et voilà. Donc voilà, ça par exemple, et puis là, j'ai des sponsors, notamment là j'ai un ami qui m'aide financièrement, qui a une entreprise d'intérim, et par exemple lundi c'est ma journée de repos au boulot, et je suis partie la journée à Marseille pour faire un shooting photo par exemple, donc voilà, je suis rentrée à 23h, le lendemain à 8h, j'avais cours quoi, avec mes élèves. Et j'habite à 1 heure de route à peu près, 3/4 d'heure de route du boulot. Donc voilà, c'est des choses qu'il faut gérer. Voilà, hier j'avais un rendez-vous aussi sur Annecy. Voilà, des petites choses en fait. Mais quand ça se met tout bout à bout, si en plus on ajoute des entraînements, ben voilà, ça peut être fatigant. Après, c'est pas non plus phénoménal. Et puis, je suis pas non plus Mbappé. Hein, donc voilà, mais c'est des choses qui peuvent être plus ou moins, après ça dépend aussi du tempérament qu'on a, mais qui peuvent être plus ou moins coûteuses en énergie, et du coup il faut aussi savoir le gérer, et puis il n'y a pas que l'entraînement et le boulot à côté, il y a aussi d'autres petites choses qui peuvent s'intercaler, la gestion un peu des réseaux sociaux. Alors là je suis un peu mal placée parce que je le fais pas trop et je le fais pas beaucoup, ça, c'est parce que c'est aussi un choix de ma part, mais voilà, ça peut prendre énormément de temps, donc voilà.
Ah, c'est sûr que ça prend énormément de temps, cette gestion des réseaux sociaux. J'en parlais justement avec Thibaut Barognan, que j'ai reçu ici aussi, et qui est très, très actif, lui, pour le coup. Et je pensais même que c'était quelqu'un qui le gérait pour lui. Et puis, il me disait que non, tout était fait par lui. Donc, ça ne me surprend pas que tu sois comme ça obligé de faire des choix sur tiens, là, je suis actif, là, je le suis un peu moins, parce que. Bah, faut bien aussi continuer à t'entraîner parce que maintenant, si c'est un petit peu compliqué cette position-là, j'ai l'impression pour toi d'être attendu. Comment est-ce que tu gères ça? Parce que quand on n'est pas, quand on n'a jamais fait de podium, qu'on vient d'arriver sur un circuit, et ben on a la position de celui qui veut aller chercher, on n'est pas attendu, c'est un peu facile, mais enfin facile entre guillemets. Hein. Mais quand on est attendu comme ça, c'est une source de stress. Est-ce que toi, tu as quelque chose que tu fais pour gérer ce stress-là?
Alors, moi, j'ai toujours été stressée, en fait. C'est pas lié au fait que les gens m'attendent peut-être plus maintenant qu'avant. C'est même presque moins, parce que du coup, j'ai l'impression que les gens me font confiance et j'ai l'impression d'être moins seule, en fait. Donc, je ressens pas les choses comme ça, en tout cas le fait que d'être un peu plus attendu, ça m'ajoute pas du stress. Par contre, j'ai tout le temps du stress, mais j'en ai tout le temps eu, enfin même dès le premier trail que j'ai fait, j'étais vraiment très stressée. Je le gère pas trop. je sais qu'il vient. Je sais pas quand est-ce qu'il repart. En général, ça vient, ça repart, ça dépend des jours. Il y a des jours où ça va pas du tout, mais ça dure pas non plus toute la journée. Hein. Ça peut être quelques heures de panique et puis après ça passe. Mais en fait, j'en ai pris un peu mon parti maintenant, comme je sais qu'il va venir. Je sais pas si c'est quelque chose qu'il faut gérer. En fait, je me dis peut-être que c'est ce qui me permet moi de me concentrer et de rentrer dans ma course. Donc, j'essaie de penser comme ça, en fait, de penser positif en me disant peut-être que le stress me sert à quelque chose, ne me prend pas juste de l'énergie. Et voilà. Et jusqu'à présent, ça ne m'a pas empêché de faire les courses comme j'avais envie de les faire. C'est l'avantage, en fait, du trail, c'est que le stress ne m'est pas handicapant. Quand je faisais du tennis, par exemple, c'était un très, très gros problème. Ou du patinage aussi, d'ailleurs, il m'est arrivé en patinage d'oublier mon programme, par exemple. J'étais au milieu de la glace et j'ai oublié. Et c'est quelque chose que je faisais 6 fois par semaine et j'étais tellement stressée que je ne savais plus ce que je devais faire. Là, ça se voit vraiment. Donc, c'est un problème. En tennis, ouais. J'arrivais plus à jouer. En match, j'étais complètement paralysée, j'arrivais plus à jouer. Donc, c'était aussi très frustrant. En trail, ça me gêne pas. Donc, c'est pas agréable, mais c'est tout. C'est pas... Voilà.
Ouais, c'est vrai qu'en patinage, c'est pas comme au théâtre où il y a la personne qui peut souffler derrière pour rattraper le texte. Là, si t'as oublié, t'as oublié. Ouais. Mais c'est vrai que du coup, quand, à ce que je comprends, quand le départ est lancé, finalement, tu oublies tout et puis tu es dans ta course et puis puis plus de stress, quoi. C'est ça?
Ouais, bah, oui, c'est ça. En fait, ce qui me stresse, c'est l'avant-course. Même parfois, d'être sur la ligne de départ, ça va déjà un peu mieux. Hein. Je suis vraiment concentrée et ça va déjà mieux. Mais ouais, tant que le départ n'est pas donné, en général, ce que je déteste, c'est les départs très tôt, bah, type 4 heures du matin, par exemple, parce que du coup, je dors rien de la nuit. J'arrive, je suis pas bien. Je sais qu'en allant me coucher, dès que je vais me réveiller, bam, tout va s'enchaîner, qu'on va se retrouver sur la ligne de départ, il va faire nuit. C'est vraiment, j'aime pas ça. Je préfère un départ le soir à la limite. Je préfère partir à 23h ou 22h. Je sais qu'il y a plein de coureurs qui n'aiment pas parce qu'ils disent toute la journée, je sais pas quoi faire. Mais bon, moi, au moins, la nuit d'avant, je sais que j'ai une journée pour me préparer pour la course. Donc, j'aime mieux, en fait.
Là, c'est vraiment un parti, ça, parce qu'en plus, c'est vrai qu'il y a des gens qui se lèvent 4 heures avant pour prendre un petit-déj ou un repas d'une certaine façon qui leur correspond. Et puis bah, c'est vrai que quand le départ est très, très tôt, ça ne correspond pas à beaucoup de personnes aussi, ce départ-là. Et puis, mais en même temps, c'est vrai que quand on part en début de soirée, c'est compliqué. On dit souvent de faire une sieste avant, mais enfin, c'est impossible. Enfin, moi, je n'y arriverai pas.
Bon, non, moi j'y arrive pas non plus. Hein. Mais bon, après je préfère sauter une sieste plutôt que déjà partir à 4 heures du matin avec une nuit blanche, quoi. Parce que du coup, je suis pas du tout sur un pied d'égalité avec les autres. Bon. Alors que la sieste, il y en a plein qui n'y arrivent pas. À part Camille Bruyat qui y arrive très bien. Ou Ludo Pommeret d'ailleurs. Ou Julien Chaurier. Mais bon, sinon il y en a plein qui n'y arrivent pas. Donc ça va. Je suis pas toute seule.
D'accord. Camille Bruyat qu'on salue et que je recevrai d'ailleurs la semaine prochaine. D'accord.
Alors, donc
je le disais au tout début, vous avez la possibilité de poser vos questions à Audrey ce soir. Et alors, David qui dit bonjour, j'ai cru voir qu'Audrey a fini deuxième au Grand Raid. Pense-t-elle un jour essayer d'aller décrocher la victoire en féminine ou a-t-elle un autre gros objectif?
Oui, j'ai fini deuxième du Grand Raid en 2018. C'était mon premier 100 miles. Et du coup, j'ai pas fait de nouveau de 100 miles jusqu'à là, le prochain là. Donc, c'est pour dire le traumatisme du 100 miles dans ma tête. j'ai beaucoup souffert en fait sur cette course parce que j'étais pas prête, je pense, à faire un 100 miles et encore moins à faire la Diag parce que du coup, c'est pas n'importe quel 100 miles. Et du coup, je me suis dit que j'aimerais y retourner. Le problème, en fait, si je vais au Grand Raid, c'est que, si j'y vais, j'ai envie de gagner, quoi. J'ai pas envie de le faire et de pas gagner. Donc, du coup, ça met un peu la pression, quand même. Alors, j'attends un peu pour y retourner. Mais, c'est une très belle course. Après, des objectifs, j'en ai plein d'autres. Oui. Notamment deux cette année qui sont assez costauds.
Ouais, on pourra en reparler tout à l'heure d'ailleurs, mais j'aimerais bien rester un petit peu sur l'histoire du Grand Raid. Qu'est-ce que tu as trouvé le plus dur sur le Grand Raid? Alors, on sait que c'est un parcours qui est très technique, mais est-ce qu'il y a quelque chose de particulier sur cette course qui, toi, t'as vraiment trouvé que c'était vraiment dur par rapport à d'autres courses peut-être?
Alors, il y avait un contexte un peu particulier. Il y a eu deux choses. La première chose, c'est que j'y suis allée toute seule. Enfin, j'y suis allée avec Antoine Guillon et sa femme. Mais du coup, lui courait et sa femme faisait son assistance. Donc, en gros, moi, j'étais seule sur ma course. Et donc, il y a une équipe à La Réunion qui est super, hein, qui m'a aidée, qui m'a fait les ravitaillements, qui m'a fait l'assistance parce qu'ils le font pour plusieurs élites, puisque tout l'accès à Mafat est impossible pour les gens. De toute façon, même les assistants personnels ne peuvent pas y aller parce que c'est pas accessible par la route. Donc ils font de toute façon tous les élites. Puis moi, ils m'ont fait en plus les ravitaillements du début et de la fin. Donc c'était bien, mais c'était pas des gens que je connaissais. Et du coup, sur une course aussi longue, je me suis pas rendu compte que j'aurais besoin d'avoir des gens que j'aime et que je connais et qui me connaissent avec moi, en fait. Donc ça, c'était le premier point. Et l'autre est intimement lié au premier point, c'est que c'est une course qui est très technique, en plus d'être longue et d'avoir un ratio de dénivelé positif, négatif, important. C'est très, très technique. Donc, déjà, il faut rester concentré mentalement pendant très longtemps. Et c'est une course très longue, en fait. Et ça, j'avais pas mesuré que courir pendant plus de 29 heures, moi j'ai mis 29h20 et quelques, je sais plus combien exactement, ça allait être vraiment très, très 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 dur pour moi de rester concentrée comme ça pendant aussi longtemps. Et voilà, donc je sais toujours pas si je suis capable, en fait, de bien vivre une course de plus de 25 heures, en fait. j'en ai jamais refait parce que j'avais pas envie. Et donc, je ne sais pas si. Ouais, je n'en sais rien en fait. Mais c'est vrai que c'est très dur la diagonale.
C'est intéressant ce que tu dis parce que souvent on rêve un petit peu d'ultra, enfin beaucoup, hein, rêve d'ultra, ça fait rêver tous ces parcours, toutes ces distances qui sont incroyables. Mais sauf qu'en fait, on ne sait pas si on est fait pour ça avant de l'avoir fait.
Ouais. Bah oui, c'est exactement ça, ouais. Et puis, je ne sais pas si c'est le cas parce que je n'ai pas réessayé, mais peut-être qu'on a une distance. Limite en fait, peut-être que parce qu'un ultra, ça commence, on va dire, à 100 km et puis ça se termine à 300, enfin ça se termine pas en fait, mais il y a des ultras de 350 km, donc voilà. Et peut-être que chacun a une distance limite au-delà de laquelle il prend plus du tout de plaisir, ou à partir de laquelle il prend du plaisir aussi. Moi j'aime faire des courses de 30-40 km déjà, ça me plaît. Moins, je pense que ça serait trop rapide en fait, mais sinon ça me plaît. Je pense qu'il y a des gens en dessous de peut-être de 80 km, ils n'aiment pas ça parce qu'ils sont dans le dur et qu'ils ne sont pas encore chauffés, et que je ne sais pas, je suppose. Donc je pense qu'on a tous en fait un panel de courses qu'on peut faire et dans lesquelles on prend du plaisir, et qu'il faut le trouver. Et c'est vrai que ce n'est pas facile, c'est qu'en essayant qu'on le sait en fait. Et puis c'est pas parce que voilà, ma première diag, je l'ai mal vécu, que peut-être si j'en refais une, elle se passera, enfin, je le vivrai aussi mal. Peut-être que aussi j'ai progressé, j'espère quand même, en 2 ans. Et que voilà, maintenant, je serai mieux armée pour m'attaquer à la diag, surtout que je saurai davantage à quoi m'attendre. Je ne sais pas, mais voilà.
Bah écoute, affaire à suivre sur le prochain gros ultra. Du coup, c'était la deuxième partie de la question de David. Est-ce que tu peux nous parler justement de ton gros objectif de cette année ?
Mon objectif principal, c'est l'UTMB, fin août. Et avant celui-ci, j'en ai un autre qui est dans 15 jours à peu près, ouais, qui est la Western States. Voilà. Donc, mais le principal quand même, c'est l'UTMB. Je veux dire, à la base, j'avais décidé de faire la Western pour prendre de la vitesse en vue de l'UTMB. Après, il se trouve que... moi, j'ai 3 courses de rêve, en fait, dans ma tête que j'aimerais gagner un jour. C'est la Western, c'est l'UTMB et c'est l'Hard Rock. Donc, du coup, la Western en fait quand même partie. Après, faire pour la première fois la Western et la gagner, ça me paraît vraiment très compliqué. Mais bon, on verra, on ne sait jamais sur un malentendu.
Voilà. Surtout, comme tu le dis, sur un ultra, il peut se passer plein de choses. Donc, donc les malentendus, il peut y en avoir un paquet.
Non, mais bien sûr, mais c'est sûr. Comme c'est, je dis toujours, si l'occasion se présente, je ne laisserai pas passer, ça c'est sûr. Mais bon, après, je ferai ce que je peux, quoi.
Génial. Alors, comment est-ce que tu as préparé, du coup, cette Western States ? Qu'est-ce qu'elle a de particulier comme, pour toi, cette course ? Et comment est-ce que tu l'as préparé, quel est ton objectif sur cette course, du coup, de la gagner, tu nous as dit, mais en termes de chrono, est-ce que tu t'es fixé des objectifs, dis-nous tout.
Alors, déjà la première partie de ta question, ce qu'elle représente en fait, c'est comme moi je suis arrivée tard sur le trail, en fait j'ai un peu chopé des noms de courses qui me paraissait mythique. Ouais. Du coup, celle-ci en faisait partie. Donc, pour beaucoup de gens, et j'ai entendu plein de fois parler. Donc, du coup, voilà, elle était dans ma tête pour ça, à la base. Et c'est une course qui est très roulante, en fait, qui est, pour nous, Européens, qui est très roulante et qui se court vite. Et donc, du coup, qui n'était pas du tout une course faite pour moi, à la base. Donc, j'ai eu de la chance dans cette pandémie, en fait, d'avoir des propositions qui se sont très bien accordées avec cet objectif de prise de vitesse que j'avais cette année, puisque j'étais invitée au projet Carbonix avec Oka en Arizona en janvier. Donc j'ai fait un 100 km sur route qui m'a permis justement de travailler sur le plat. Et après, je suis allée refaire une course aux États-Unis, la Canyon Endurance 100, là, c'était en avril, qui emprunte une bonne partie de la Western dans l'autre sens. Très roulante aussi, pour voilà, voir un peu à quoi j'allais être confrontée, tant au niveau de l'ambiance que du terrain, que de la chaleur, même s'il fera beaucoup plus chaud à la Western, que des concurrentes, par exemple sur cette course-là, la Canyon 100. Moi, j'estime avoir fait une très bonne course et on est 3 filles à arriver en 2 minutes, par exemple, sur 100 km.
D'accord.
Et voilà, je sais qu'il y a de la concurrence et je sais que ça va être haletant en termes de pression, même pendant la Western. J'ai entendu, il y avait Beth Pascal, du coup, qui a gagné la Canyon 100, largement. et donc, elle a déjà fait la Western et elle m'expliquait que sur les dernières parties, elle est arrivée quatrième, elle. Et les dernières parties, les filles éteignaient leur lampe frontale pour pas être vues, pour pas être rattrapées. Donc, elle a vécu ça sur un 100 miles. Donc, je me suis dit que, voilà, il faut le savoir. Il faut l'avoir en tête que ça peut être très proche tout le long. Les garçons sont habitués à ça, les filles beaucoup moins. Donc, voilà, il faut le savoir.
Ah, c'est marrant, cette petite technique là, un peu fourbe, de dire « je suis pas là, tu me rattraperas pas ».
Les garçons font ça à l'UTMB et à la TDS. Hein. Ça, c'est dans le col du tricot, les garçons éteignent leur lampe. Hein. Ça, mes copains me l'ont dit, je suis au cas. Ouais. Ils sont un peu fous. Moi, je n'avais jamais pensé à faire ça. Moi, je ne le ferais pas hein, sur la Western. Si j'aurais trop peur de tomber. Et puis, de toute façon, si je dois me faire rattraper, je me ferai rattraper. Donc bon. Mais j'aimerais bien que la fille devant ne l'éteigne pas non plus, par contre, parce que j'aimerais autant savoir qu'elle est là.
Là, c'est marrant cette technique là, mais je suis sûr qu'il y en a plein comme ça, des petites techniques, des petites choses comme ça qu'on connaît pas quand on n'est pas comme ça dans l'élite, et des petites techniques un peu fourbes. Est-ce qu'il y en a d'autres comme ça, des petites choses comme ça que tu peux nous partager auxquelles tu penserais comme ça?
Il y en a plein, je pense. Par exemple, je sais pas, un ravitaillement. Moi, la TDA, j'étais arrivée en même temps que des concurrentes. La dernière TDS, on était trois ensemble au 50e, même plus que 50e, à Beaufort. Il restait 50 km, donc à peu près au 100e kilomètre. Et donc, je voulais ne pas partir trop loin d'elle, mais je ne voulais pas en même temps, moi, me saboter mon ravitaillement. Donc, je les regardais. Je savais, elles étaient dans mon dos, mais je savais quand est-ce qu'elles partaient. Et je savais exactement ce qu'il fallait que je fasse pour à la fois moi me ravitailler correctement et à la fois leur mettre quand même un petit peu de pression. Donc en fait, je les ai laissés partir et puis j'y suis allée juste derrière. Et le dernier ravito, on n'était plus que deux. Et là, par contre, j'ai attendu qu'elle arrive dans le ravitaillement et je suis partie juste avant pour lui montrer que voilà, que j'allais pas lui donner, que si elle voulait la première place, il allait falloir qu'elle vienne la chercher. Mais voilà, il y a plein de
pas.
Ouais, c'est le jeu, hein, c'est le jeu. Il y a un moment où on joue avec ce qu'on a à ce moment-là et ce qu'on peut jouer sans aucune malveillance. Hein. C'est pas du tout ça. Hein. C'est rigolo, quoi. C'est le jeu. Et c'est vraiment pour jouer, quoi.
Ah, alors j'ai entendu ça quelque part. Je sais plus qui l'a dit, mais de considérer le try comme une blague, que c'est une grosse blague, tout ça, et puis que on est juste là pour s'amuser et que y a pas vraiment de grands enjeux et que de jouer un petit peu comme ça sur les ravitaux, à faire peut-être des fois un peu style qu'on n'est pas bien et puis en fait on est en pleine forme,
faire style qu'on peut aller on peut aller à la bagarre alors qu'en fait pas du tout, absolument pas. Notre corps n'est pas du tout d'accord avec ça. Ouais, bah oui, c'est le jeu.
Génial. Alors, du coup, il y a Germain que tu, je pense, connais un petit peu, qu'on salue, qui est passé aussi dans l'émission Café Trailer et qui dit bonjour Audrey. Que manges-tu quand tu vas aux US?
Je suis au régime, moi. Quand je vais aux US, je mange que des légumes. Non, c'est pas vrai, bien sûr. Il dit ça parce que je pense qu'il a vu passer des stories avec des pancakes, des genre 15 pancakes superposés. En fait, non, je mange ce qu'il y a. J'aime bien aussi quand je vais dans un autre pays, manger les spécialités locales. Alors, après avoir une course, il faut aussi trouver le juste milieu parce que tu peux pas manger que des burgers frites, quoi qu'il y a. Mais les trois jours avant, moi en tout cas, je le fais pas. Je fais pas complètement ça, mais par contre, je le fais un peu quand même. J'essaie de trouver le juste milieu pour me faire plaisir, tester de nouvelles choses et en même temps, pas saboter ma course quand même, parce que bon, ce serait quand même un peu con. Voilà.
En fait, quand on va là-bas, il faut prévoir vraiment un temps pour l'après, quoi. C'est ça, pour profiter
ouais,
sur l'après.
Ouais, ouais, c'est important. Ça. L'après est très important.
C'est ça.
Mais
pour
tout
la
le temps,
récup,
ça.
Hein, évidemment, la récup.
Bien sûr, la récup.
Ouais. Évidemment. Génial. Bon, je savais bien qu'il y avait un petit truc derrière cette question de Germain, connaissant un petit peu son côté taquin. Ça ne m'étonnait pas qu'il y avait quelque chose derrière.
Non, parce que, en fait, on s'est vu quelques fois avec Germain et Katie, notamment. Et puis, avec Katie, on aime bien manger. Enfin, on s'aime bien pour ça aussi. On aime bien manger et on mange quand même beaucoup. Et du coup, bah, voilà, c'est... On s'envoie souvent on aime mutuellement nos stories nourriture, c'est voilà, c'est quelque chose qui fait partie de nous.
Le petit instant partage nourriture, ok.
Voilà.
Ça marche. C'est intéressant ça de savoir que les athlètes élites aussi savent ne pas que se brider à des choses qui sont prévues. Et c'est rassurant ouais. aussi pour nous qui passons notre temps à faire des petits excès au quotidien.
Je pense que c'est très important en fait moi. Alors on n'est pas tous pareils, hein. Attention, hein. Il y en a qui ont besoin d'une grande rigueur et tout. Moi c'est pas le cas et si je devais donner un conseil aux gens, je dirais de pas faire ça en fait, parce que je pense qu'on peut vite tomber dans l'obsession et c'est quand même, on y a déjà un entraînement qui est quand même plus ou moins rigoureux, mais en tout cas qui est contraignant et qui peut être difficile. Si en plus on se bride sur la nourriture, enfin où est le plaisir, quoi, en fait, après, je sais pas. Moi, j'ai besoin de cette liberté, comme à l'entraînement. Alors, en général, je suis plutôt très bien ce que me dit mon entraîneur, mais si une occasion se présente, que j'ai un ami qui me propose de faire une sortie qui n'était pas prévue, bah, je vais lui écrire en lui disant, bah, voilà, aujourd'hui, je pense que je vais faire cette sortie, puis on adaptera l'entraînement, voilà. Je pense que c'est important aussi, parce que c'est aussi un sport individuel et on passe, enfin, en tout cas, moi, je passe beaucoup de temps seule à m'entraîner, j'adore ça, hein, c'est vraiment quelque chose que j'aime, mais quand j'ai une opportunité qui se présente, j'aime bien pouvoir la saisir aussi, donc. La nourriture, c'est pareil. Si j'ai un resto comme ça qui arrive, j'aime bien pouvoir saisir.
Il y a une ouverture des terrasses qui se refait. Allez hop, j'en profite.
Non, d'ailleurs, j'y vais demain. Voilà.
Excellent. Alors, justement, Audrey, tu parlais un petit peu de ton entraînement. Je sais que tu étais entraînée par Antoine Guillon. Auparavant, et que donc Antoine que j'ai reçu aussi ici, lui il est plutôt du style d'entraînement à faire beaucoup de quantité, donc avec passer beaucoup d'heures dehors à faire, ce que ce soit en courant ou en VTT, et maintenant tu es plus sur l'entraînement de qualité. Est-ce que tu peux nous parler de cette transition là que tu as fait?
Ben en fait, elle s'est faite en changeant d'entraîneur. Moi, à la base, j'étais plus comme Antoine parce que j'avais pas non plus très envie de me faire mal, en fait, vraiment. Et puis j'avais vraiment peur que ce soit pas bon pour moi, en fait. J'avais cette crainte parce que je voyais des championnes qui explosaient les unes après les autres et j'avais peur que ce soit lié à ça, au travail qualitatif. Donc voilà, c'était plus une crainte et une méconnaissance, en fait. Et puis, quand j'ai changé d'entraîneur, du coup, maintenant, je suis avec Pascal Balducci. Et lui est beaucoup plus orienté qualitatif. Il vient de l'athlétisme. Donc, voilà, il a des bases d'athlé. Et donc, voilà, il m'a expliqué son point de vue. Voilà, et j'ai décidé de...
Ah, on a encore perdu Audrey. Mince. Du coup, je me retrouve coupé en deux, moi. Bon, je pense qu'Audrey va revenir, hein. C'est pas la première coupure qu'on a ce soir. Ça y est, Audrey revient. Hop, te revoilà.
Voilà.
Alors, donc, du coup, tu disais que maintenant tu étais passé avec Pascal Balducci qui venait de l'athlétisme et que tu faisais plus de qualitatif.
Voilà, beaucoup plus sur le qualitatif. Et donc, j'ai su voir aussi les bienfaits du qualitatif sur moi, sur mes performances, et puis aussi sur le temps que ça peut me libérer à côté, parce que au lieu d'avoir une sortie de 3 heures, faire une belle sortie quali d'une heure, bah moi j'ai 2 heures supplémentaires, bah déjà une heure au moins pour me reposer, parce qu'au début le problème du qualitatif c'est que il faut l'assimiler en fait, et au début qui est un début assez long, Moi, il m'a fallu beaucoup de temps pour pouvoir l'assimiler. En fait, j'avais du mal à dormir, j'avais du mal à manger, ça me coûtait beaucoup en fait. Là, maintenant, ça va mieux, mais ça fait pas super longtemps. Alors que ça fait quand même 2 ans et demi qu'on travaille ensemble. Donc voilà. Mais effectivement, ça me laissait quand même du temps pour faire autre chose. J'avais des séances plus courtes et puis c'est bien d'avoir du temps pour faire autre chose aussi.
Voilà. C'est intéressant cette expérience-là, ce retour que tu nous partages, parce que souvent on a un peu tendance à croire qu'il y a une méthode d'entraînement et qu'il faut suivre une méthode qui nous correspond, alors que justement il faut suivre une méthode qui nous correspond et qu'il n'y a pas une seule façon de faire, qu'il faut tester des choses, s'adapter en fonction de ce que notre corps nous dit. Et du coup, toi, tu as fait cette expérience-là de ce changement, donc c'est chouette.
Ouais. Ok. Ouais, puis c'est pas facile. Ouais. C'est pas facile, ça fait peur en fait au début. Quand on change, forcément, tout changement de toute façon fait peur. Mais dans l'entraînement, ça peut faire peur et du coup, c'est vrai que c'est bien de tester, je pense. Comme tu disais, je pense que c'est très bien de tester plusieurs choses et de voir ce qui nous correspond. Ouais.
Mais c'est vrai qu'on a toujours ce discours de dire que pour le faire du fractionné, ça. C'est pas forcément nécessaire parce que on court jamais sur un ultra à 18-20 km/h. Ça n'arrive jamais. Donc pourquoi le faire à l'entraînement? Il y a ce discours-là qui est répété quand même assez souvent et qui commence à s'ancrer un petit peu.
Oui, mais en même temps, comme j'ai déjà entendu, si on veut courir plus vite, il y a un moment, il faut courir vite. Si on ne court pas vite, on ne va jamais progresser en vitesse. Donc, moi, je pense que en ultra, le niveau a aussi explosé chez les garçons avec l'arrivée de Kylian Jornet. Chez les filles, là, récemment, peut-être Courtney de Walter qui a quand même pas mal joué là-dessus. Et que pour pouvoir… Maintenant, il suffit pas seulement de finir un ultra et d'être en… Il faut quand même aller vite. Là, le dernier que j'ai fait, Canyon 100, là, c'était donc 100 km quand même avec 5000 de dénivelé. Je l'ai fait en 10h30. Donc, c'est quand même. On court, quoi. C'est pas de la rando. Donc, si on fait que des rando courses, on peut finir en ultra, effectivement. Mais si on vise les podiums, c'est pas possible. Il faut aussi travailler la vitesse, je pense.
Voilà. C'est intéressant pour tous ceux qui cherchent à aller chercher des chronos, chercher de la performance, de se dire si moi j'ai envie d'aller chercher de la performance, faire beaucoup d'heures, ça suffit pas, il va falloir aller aussi chercher des séances qualitatives.
Ouais. Et puis même pour induire un peu de variété aussi, parce que ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait de faire une seule activité qui peut créer de l'ennui, je pense que l'entraînement c'est pareil, il faut créer de la nouveauté, il faut que le corps s'adapte en fait, ce qui est difficile, ce qui va nous coûter en fait quand un entraînement est difficile, c'est là qu'on progresse le plus, donc puisque ça demande une adaptation, après une fois qu'on est adapté, il faut rechanger et de nouveau être dans la difficulté pour de nouveau progresser, mais c'est comme ça que ça se passe, et donc voilà, il faut aller justement sur ce qui nous paraît être le plus difficile, je pense.
Là, c'est vrai que c'est pas vraiment ce qu'on a envie de faire, mais pourtant c'est ce qu'il faut faire.
Je te le dis, mais moi je déteste les séances de fractionné, mais bon, je sais que maintenant ça va mieux parce que justement je commence à m'adapter. Mais faut pas que Pascal écoute ce podcast parce que sinon il va m'en mettre encore d'autres qui vont encore plus me flinguer. Mais bon, c'est ce qu'il faut.
Écoute, si Pascal écoute, on le salue. alors, Sabine, qu'on salue, Sabine. Bonjour, est-ce que tu penses qu'être compétitrice en trail t'aide dans ton métier de prof de PS, par exemple, pour motiver les élèves ou gagner en crédibilité, ou au contraire, c'est très fatigant de faire un cours dynamique après un ultra?
C'est fatigant de faire un cours dynamique après un ultra, mais oui, je pense que ça m'aide en crédibilité, tout à fait, parce que j'ai rarement des élèves qui me disent « Oui, madame, vous nous dites de courir, mais vous courez pas avec nous. » Parce que, il y en a contentés. J'ai juste besoin de les regarder. Et en général, ils ont compris la réponse. Donc oui, en termes de crédibilité, c'est vraiment chouette. Et puis, pour motiver les élèves aussi, par exemple, là, j'ai remplacé une collègue parce que je suis remplaçante moi en fait en EPS. Donc ça veut dire que j'ai pas une classe à l'année avec mes élèves, mais là cette année j'ai fait un remplacement de novembre à maintenant. Donc du coup j'avais presque des classes. Donc ils me connaissent bien, je les connais bien, donc c'est bien. Et pourquoi je disais ça? Je sais plus. Pour les.
Ah, oui, un exemple sur une anecdote peut-être qui t'est arrivée avec des élèves.
Ouais, en fait, ils m'ont suivi sur le 100 km route parce qu'en plus, c'était filmé. Donc, ils ont pu me voir. Donc, ils étaient ravis. Les collègues aussi. Et donc, ça les motive vachement en cours. Et puis, on a créé en gros une AS, une association sportive le mercredi après-midi, donc avec les élèves volontaires, trail. Et donc, bah, forcément, quand c'est moi qui propose, bah, les élèves ont envie de voir, ils ont envie de découvrir, ils sont curieux, en fait. Donc, c'est vraiment chouette de partager ça avec les élèves. C'est vraiment quelque chose que j'adore. Au début, je le disais pas trop quand j'étais à Paris la première année parce que je me disais peut-être que ça va pas les intéresser. Ils vont se dire, bah, elle nous raconte sa vie, on s'en fout. Et en fait, pas du tout. Ils sont hyper fiers, ils sont hyper contents. Ils adorent quand je leur parle de ça. Donc, c'est vraiment bien, ouais.
Et ça leur fait pas trop peur quand tu vas courir avec eux? Ils ont pas trop peur? Ils vont se dire, on va se prendre la misère?
Non, ils savent. Ils vont après. Ils vont se prendre la misère sur la durée, mais si on fait un sprint, moi, en général, c'est ça qu'ils veulent faire avec moi. Moi, je ne veux pas faire de sprint avec eux. Je me suis déjà fait éclater en sprint. Un petit sixième, d'ailleurs. Ben oui, forcément, ils sont rapides hein, à cet âge-là. Hein. Donc, je leur dis souvent, hein, tu sais, si on fait un sprint, tu vas me battre. Hein, mais c'est bien aussi, c'est bien qu'ils voient qu'on peut gagner, qu'on peut perdre et que voilà, ce n'est pas un problème. C'est un jeu, justement. Ça ne me dérange pas de travailler des élèves sur un sprint.
Ouais. Génial. Alors, je voudrais enchaîner avec totalement un sujet complètement différent parce que pour ceux qui, enfin, personne ne le sait, sauf ceux qui étaient au début de Trail Running de Grenoble, on s'est rencontrés là-bas où tu avais fait une petite intervention, une intervention sur une table ronde. Et tu as parlé d'un sujet qui moi, me concerne beaucoup. C'est sur les ultras. Tu parlais de ta technique pour gérer les descentes et de ne pas trop courir rapidement dans les premières. Pourtant, bah, c'est là qu'on est frais. Est-ce que tu peux nous parler de ça, justement, s'il te plaît?
Dans les ultras, hein, je parle vraiment pour les ultras, le problème dans les descentes, c'est qu'on va casser des fibres musculaires. Et une fois qu'on a cassé ces fibres musculaires, elles ne se reconstituent pas. Donc, si on les casse dès le début, on va être mal. Enfin, en tout cas, on ne pourra plus donner de vitesse. Enfin, on aura très mal aux jambes tout le long de l'ultra. Donc, sur une descente non technique, parce qu'en général, c'est là qu'on va vite et c'est là qu'on casse des fibres musculaires, effectivement, les premières descentes et les longues descentes, en tout cas, je pense qu'il faut vraiment se préserver, essayer de rester le plus proche du sol possible, tout en évitant de tomber, bien sûr, mais essayer d'éviter les sauts, les choses comme ça, qui peuvent paraître un peu rigolos pour faire marrer la galerie au départ, mais qui peuvent coûter très cher par la suite. Donc, je pense qu'il faut être assez prudent, en fait, sur les premières descentes, en garder bien sous le pied. Et puis, si éventuellement, on en a encore pas mal sous le pied, eh ben, l'utiliser dans les dernières. Je dirais les deux dernières maximum. Mais ouais, c'est vraiment quelque chose que je fais souvent. Sauf sur des courses qui sont relativement plates, comme par exemple à la Canyon 100. Il y avait des descentes qui étaient très peu importantes, en fait, avec très peu d'inclinaison. Des montées un peu pareilles et beaucoup de plats. Donc là, on peut courir quand même. Sans aller en sprint, évidemment, il y a quand même 100 km à faire, donc il faut être lucide à un moment. Mais sur une descente non technique, sur un ultra, je pense par exemple à la TDS, il y a une descente qui arrive relativement tôt dans le parcours, qui va sur Bourg-Saint-Maurice, qui fait, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble qu'elle fait 15-20 km. Et moi, les deux fois où j'ai fait la TDS, j'ai vu des gammes passer à 18 à l'heure dans la descente. Et, derrière, il y a une remontée raide, je savais que j'allais les revoir, quoi. Ou ne pas les revoir, mais en tout cas, ils allaient plus être devant moi. Parce qu'il y a un moment, enchaîner une grande descente comme ça avec un coup de cul bien raide derrière, c'est très compliqué. Et surtout qu'on passe à Beaufort à midi, qui c'est plein cagnard. Et voilà, donc en plus de la fibre musculaire, il y a aussi la gestion de l'effort derrière quand on remonte direct alors qu'on ne s'est pas reposé, entre guillemets, en tout cas économisé dans la descente, c'est très dur. Donc. Ouais, moi, ma technique, c'est plutôt d'être prudente sur les premières descentes.
Ouais, donc, en fait, il faut s'armer de patience sur les premières descentes et puis se dire, C'est-à-dire, tout ce que je suis en train de faire là, c'est juste de m'économiser finalement presque pour enchaîner sur la ouais. montée. Et quand, parce que là, en fait, moi, j'ai ce problème-là parce que ma principale qualité, c'est la descente. En montée, je suis pas bon. Et puis, du coup, je me dis, bah, si je veux gagner un petit peu de temps, il faut que j'avance dans les descentes, mais si tu avances trop dans les descentes, tu vas te fracasser pour la suite. C'est difficile de trouver cet équilibre et cette gestion.
Bien sûr, mais peut-être que si tu gardes de l'énergie dans la descente, tu seras meilleur en montée aussi. C'est ça que, tu vois, peut-être que si jamais tu n'as jamais vraiment essayé en compète, ça vaut le coup d'essayer. Et c'est valable aussi pour autre chose, d'ailleurs, les descentes, faire les premières descentes relativement tranquilles, c'est valable aussi pour l'estomac et tout ce qui est intestinal et tout ça, parce que le ventre est très ballotté dans les descentes, et si dès le départ on commence à avoir des crampes intestinales, là c'est pareil, hein, c'est quelque chose qu'on va traîner toute la course. Et si on peut plus manger à un moment, c'est compliqué, hein. s'il reste 150 km à faire, il y a un moment ça va coincer. Donc même pour préparer l'organisme, lui dire bon bah voilà, il va falloir que tu gères l'alimentation, il va falloir que tu gères les montées, il va falloir que tu donnes beaucoup aujourd'hui, voilà, juste ça fait un peu comme un petit échauffement, voilà, le prévenir avant de l'exploser, quoi.
Bon, en tout cas, j'écoute très attentivement tout ce que tu dis sur la TDS, comme je j'y suis engagé cette année. Ah, je sais maintenant qu'il y a cette descente, et je penserai à toi sur la remontée.
Ouais, merci. Alors, pense-y, dis-toi que la course commence à Bourg-Saint-Maurice.
D'accord, ok, je retiens.
Ouais.
Audrey, j'aimerais bien qu'on parle de émotionnellement. Est-ce qu'il y a une course qui t'a marqué particulièrement? Est-ce que il y en a une où tu t'es dit waouh, c'est ça le trail? Ok, c'est cool.
Alors là, c'est pareil, c'est intimement lié à la relation que j'ai moi à la compétition. Mais moi, dans la compétition, ce que j'aime, c'est gagner, en fait. Voilà, c'est aussi bête que ça. Sinon, si je gagne pas, je préfère faire un off, aller courir toute seule en montagne, tranquillement, pas avoir à mettre le réveil. Ça, c'est lié au stress. Enfin, si je peux m'éviter tout le stress d'avoir une compétition, honnêtement, je le fais. Mais par contre, le fait de gagner, là, ça annule tout le reste. Donc, forcément, la course que je pense qui m'a procuré le plus d'émotions, c'est la TDS, et je pense que c'est la première année où je l'ai gagnée, parce que c'était pas la première fois. complètement inattendu, et puis nouveau, et puis fantastique, et puis à l'UTMB, et puis voilà. Donc voilà, c'est les plus grosses émotions. Sont intimement liés au résultat que je vais faire, malheureusement, mais c'est comme ça.
Et alors, d'où tu penses que ça te vient, ce côté compétiteur, compétitrice, cette envie de gagner? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose que tu as, qui était dans ton éducation? Est-ce que c'est quelque chose d'inné? Est-ce que c'est quelque chose que tu as eu sur le tard? Comment
non.
Tu...
Non, j'ai toujours été comme ça, tout le temps, mais je pense pas que ce soit l'éducation, parce qu'on n'a pas du tout été élevé comme ça. Alors après, comme ça, ça dépend, parce qu'en fait, c'est vrai que chez nous, on voit toujours l'esprit de compétition comme quelque chose de négatif, parce que moi, c'est pas du tout écraser les autres, hein, quand je dis gagner, vraiment loin de là, ça, hein, c'est pas du tout ça, hein. Je veux dire, sur une course, même si je suis première, si je vois quelqu'un, une fille ou un garçon d'ailleurs, hein, qui va pas bien, je vais m'arrêter pour lui demander si ça va, hein. Je vais pas passer, je suis pas non plus, j'ai pas envie de gagner à ce point, hein. Je veux gagner avec la manière, je veux pas gagner à tout prix. Mais par contre, oui, l'envie de gagner, en fait, je pense que c'est parce que le fait de gagner, c'est que il y avait personne de meilleur, en fait. Et du coup, comme je vois presque toujours les autres meilleurs, je me dis, vu que je suis meilleure, c'est que je dois être bonne. Je pense vraiment, honnêtement, je crois que c'est ça l'idée, en fait. Donc d'ailleurs, j'ai toujours peur que les autres soient tristes quand je gagne. Peut-être qu'elles vont penser qu'elles sont nulles, alors que en fait elles sont hyper fortes. Mais moi, du coup, ça me fait hyper plaisir si je gagne quelqu'un qui est hyper fort, parce que du coup, je me sens super bien. Ouais, voilà. Donc non, c'est pas lié à mon éducation. Ma sœur, elle est pas du tout compétitrice. Mon frère l'est un peu, mais pas comme moi. Donc je pense que c'est inné, en fait. Je pense que c'est lié à un manque de confiance, en fait, en vrai. Je pense que c'est ça. J'ai besoin d'arriver devant les autres pour me rendre compte que j'arrive bien, en fait.
C'est bête. Ça doit être une espèce de boule d'émotion quand tu gagnes, de joie d'avoir gagné, mais de tristesse de voir les autres perdre.
Ah oui, c'est le bordel. De toute façon, les émotions, c'est le bordel chez moi. Hein. Il y en a trop.
Excellent. Ouais. J'avais jamais entendu ça.
Bon, honnêtement, quand je gagne, je suis quand même plus contente pour moi que triste pour les autres. Je ne suis pas si altruiste que ça quand même, mais, mais je pourrais comprendre quelqu'un qui serait triste, tu vois, et ça me dérangerait honnêtement, tu vois, bon, bref.
Ah, c'est ce petit côté empathique qui... Ok. Ah, ça m'a tué ce côté double émotion là, je... Voilà.
Si on avait que deux, ça irait, ça serait facile à gérer. Mais non, il y en a plein des émotions. Il y en a beaucoup.
Et puis en plus, quand t'as un Ludo Collet au micro qui en rajoute par-dessus.
Ah oui, ah bah moi, oui, bien sûr. Bah oui, il me l'a déjà dit d'ailleurs, mais en plus, on se connaît bien avec Ludo, il sait très bien au début de chaque trail que ça va pas du tout. J'ai pleuré au début de la TDS en 2019, au départ, parce que ça n'allait pas du tout. Ça n'allait pas vraiment. Et il me dit, mais tu sais bien que tout ce que je dis, c'est pour faire monter la sauce et tout. Bah oui, mais bon, moi je l'entends en attendant. Du coup, j'y crois, tu vois, j'en peux plus.
Excellent. Alors du coup, toi, en tant que compétitrice et qui aime du coup ce côté porter un dossard, aller se tirer la bourre dans la montagne, comment est-ce que tu as vécu cette période sans dossard?
Bah en fait, moi je l'ai pas vécu parce que j'ai fait une année avec dossard, en fait. J'ai réussi à avoir des dossards normalement. Alors pas les dossards qui étaient prévus initialement, mais j'ai fait une année pleine, en fait. J'ai pu faire des compétitions, voilà. La seule que j'ai pas faite en compétition qui était prévue, c'était la Western l'année dernière. Enfin non, il y a eu l'UTMB, mais j'ai fait d'autres choses. Mais du coup, en fin juin, j'avais normalement la Western qui ne s'est pas faite. Mais début juillet, j'ai eu un off avec Penny Vertical. Donc, on a fait les 14 sommets des Bauges. Donc, voilà, c'était pas un dossard, mais c'était encore des émotions qui étaient incroyables et du partage. Et donc, voilà, j'ai eu cette chance que, en fait, ça n'a pas changé énormément d'une saison normale, en fait. Hein,
Alors justement, du coup, ton 100 km route que tu as fait cette année, ça t'a apporté quoi? Alors évidemment, tu l'as dit, ça t'a apporté de la vitesse, ça t'a apporté ça, mais est-ce que ça t'a apporté en termes de connaissances de toi et puis peut-être aussi d'autres envies aussi d'aller vers d'autres types de pratiques de la course à pied? Est-ce que ça t'a apporté des choses comme ça auxquelles tu ne t'attendais pas forcément?
Ah ouais, vraiment. Ah bah j'ai adoré, en fait. J'ai adoré cette expérience. Je pense que ce que ça m'a apporté en premier, c'est de la confiance, parce que je ne m'attendais pas du tout à arriver à faire quelque chose de bien sur de la route. Parce que pour moi, mon point faible, c'était la vitesse, et que voilà, j'étais une randonneuse, et que voilà, j'allais me faire exploser, et que j'allais rentrer chez moi. Mais ce n'était pas grave, parce que j'allais quand même vivre une belle expérience, et que j'étais très contente d'y aller, de partager ça avec la team. Donc voilà, c'était quand même une belle expérience. Mais en termes de résultats, honnêtement, je ne me faisais pas trop d'illusions. Et puis au final, je suis quand même arrivée. Et puis j'ai aimé me préparer. Effectivement, j'ai aimé essayer de tenir une allure comme ça. C'est très particulier comme travail. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai aimé, parce que tout le début de la course, on est bien, en fait. C'est une allure qui est pas... qu'on peut tenir pendant 7-8 heures, donc une allure qui est relativement agréable. Et bon, il y a un moment où c'est plus du tout agréable, mais pour moi, c'est venu assez tardivement, finalement, dans les 100 km. Donc, je veux dire, en ultra, il peut m'arriver d'être mal au bout d'une heure et demie, hein, donc là, c'était pas le cas. Donc, tout le début, j'étais bien, c'était cool. J'ai l'impression d'aller vite et d'être bien, donc j'ai vraiment aimé. Et puis, il y avait ce côté vraiment très rassurant aussi de voir des gens tout le temps. C'est pareil, en ultra, que j'aime aussi, de voir personne pendant des heures, d'être tout seul au milieu de la montagne. Quand on est bien, c'est génial. Quand on n'est pas bien, ça peut être un peu stressant, quoi. Ça peut être un peu... Ça peut en rajouter. Donc là, non, il y avait Julien en plus qui était avec moi. Ça, c'est pareil, quelque chose que j'aime beaucoup, d'avoir quelqu'un que j'aime avec moi sur les courses. Donc voilà, qui était là, que je voyais souvent, que je voyais tous les 10 kilomètres. C'était bien. Ouais, donc ça m'a apporté, voilà, ça, de la connaissance sur mon allure de 100 kilomètres. Sur la foulée adoptée, sur la douleur des jambes à la fin d'un 100 km route, le temps de récupération après un 100 km route qui n'est pas du tout le même qu'après un 100 km en trail. Et puis, ouais, l'envie d'y retourner, ça c'est sûr. J'ai très envie de recommencer. Ouais.
Et ça t'a donné envie d'aller faire d'autres types de distances ou de pratiques sur la route, des 24 heures, des choses comme ça?
Alors, non, 24 heures, je pense pas. En fait, cette année, j'ai testé deux choses parce que je suis allée aussi sur la finale des Golden Trail Series. Donc, j'avais fait des 30, des 40 kilomètres. Et ça aussi, en fait, j'ai envie de le faire. J'ai envie de, par la suite. Donc, en fait, je me suis dit cette année, en testant plusieurs choses, que j'aimerais me fixer deux ultras dans l'année, principaux, très importants, des gros objectifs, et mixer avec d'autres choses, avec de la route, avec... Pourquoi pas avec de la route, avec des plus courts, avec d'autres choses, en fait.
Des traversées aussi, c'est très à la mode, ça, de faire des traversées en solo.
Ouais, pourquoi pas. Alors, en solo, moi, non, je pense pas. Mais par contre, avec des copains-copines, oui, ça, beaucoup plus.
Je préfère partager. En solo, c'était sans dossard, sans...
Oui. Ouais. En off. Oui, mais... Ouais.
Ok, ça marche. Alors Audrey, on arrive déjà aux 58 minutes 45, très précisément. Ça passe très très vite à chaque fois, cette soirée du mercredi soir. Il y a toujours la dernière question que je pose toujours, c'est de savoir qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année 2021. Alors là, c'est ton moment, tu peux nous dire ce que tu veux, que ce soit du trail ou pas, c'est toi qui choisis. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année 2021?
Une victoire à l'UTMB.
Rien que ça.
Ah bah, s'il faut demander, si je peux demander un site, c'est ça. Ouais.
Bon, bah, écoute, Audrey, c'est tout ce qu'on te souhaite, évidemment, hein, que tu aies cette boule d'émotion, joie, tristesse sur la ligne d'arrivée de l'UTMB. Bon,
mais même si je ne peux pas, je pense.
Ludo saura trouver les mots pour te réconforter.
Ouais.
Merci beaucoup Audrey. Où est-ce qu'on peut envoyer les gens qui veulent suivre tes aventures?
Sur Instagram ou sur Facebook, ma page Facebook athlète, donc les deux. En général, c'est lié. Donc quand je mets un truc sur l'un, il arrive aussi sur l'autre. Donc voilà.
Génial. Bon, bah écoute, merci beaucoup Audrey, merci beaucoup à tous d'avoir été présents dans l'espace commentaire. Vous étiez encore une fois très nombreux, j'ai pas pu afficher toutes les questions, j'en suis encore une fois désolé. Merci beaucoup Audrey, c'était vraiment un très bon moment, merci pour tout. Et voilà, on a passé un super moment avec Audrey. Encore une fois, merci beaucoup à toi Audrey d'avoir accepté mon invitation. J'espère que vous avez passé un très bon moment, que vous avez pu apprendre plein de petits trucs et astuces de la part d'Audrey dans ce podcast, dans cet audio. C'était, voilà, moi j'ai vraiment beaucoup apprécié ce moment, on a beaucoup rigolé, c'était de très bonne humeur, voilà, j'aimerais bien que toutes ces émissions-là puissent continuer sur ce ton-là, sur cet esprit-là, voilà, avec des invités toujours aussi joyeux et de bonne humeur, si ça pouvait être tout le temps le cas, enfin c'est tout le temps le cas d'ailleurs, je sais pas pourquoi si ça pouvait être tout le temps le cas, parce que j'ai jamais eu quelqu'un qui était désagréable, en fait, hein, bon. Bon, bah écoutez, merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast juste vous, vous l'avez écouté jusqu'au bout, c'est sûrement qu'il vous a plu. Donc s'il vous a plu, bah, n'hésitez pas à le partager, à le noter 5 étoiles, je le répète à chaque fois, mais ça aide beaucoup à référencer le podcast et aussi à mettre un petit commentaire. Merci beaucoup à tous ceux qui l'ont fait, donc qui ont noté le podcast sur Apple Podcast et qui partagent aussi en story vos écoutes. Ça me fait toujours très plaisir de vous voir écouter mes podcasts. Et voilà, donc merci beaucoup à tous, merci beaucoup et merci. Et encore une fois, si vous voulez soutenir le podcast, eh ben, n'hésitez pas à le faire via le Patreon, donc lien dans la description du podcast pour soutenir et aussi avoir le replay du podcast sans pub et aussi d'avoir d'autres petits avantages, mais je vous laisse aller regarder et checker tout ça sur le lien qui est dans la description pour avoir toutes ces infos. Merci beaucoup et en attendant, enchaînez avec un autre invité. Si vous ne les avez pas encore tous écoutés, c'était François et Audrey. Bye bye.